Bonjour, amis auditeurs de Radio Grand-Ciel. Nous sommes dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons faire une émission sur de la musique. Et j'ai le plaisir, dans notre studio, de saluer Bruno Moisan, qui est agrégé de l'université et docteur en musicologie. Et nous allons peut-être écouter tout de suite, parce que notre émission va tourner autour de la musique de Edvard Elgar et surtout autour du Dream of Gerontius, un oratoire. Nous allons écouter donc une pièce en entier et ensuite vous allez écouter tout de suite Bruno Moisan. Donc, cher Bruno Moisan, nous venons d'entendre, pas en entier finalement, parce qu'on voudrait que vous puissiez tout de suite introduire notre sujet d'aujourd'hui. On parlera de Elgar et de l'oratorio, le Dream of Gerontius, le songe de Géronte, et surtout du cardinal Newman, justement, du Catholic Revival, le renouveau catholique en Angleterre. Donc, tout de suite, cher Bruno, voilà. Je vous donne la parole.
Alors, il s'agit d'abord d'une... J'ai choisi, en fait, cette pièce, parce que c'est une pièce extrêmement, finalement, très amusante, pleine d'humour anglais, parce que, en fait, il s'agit d'un concerto pour piano qu'Elgar n'a jamais véritablement composé, puisqu'il a été composé, enfin, j'allais dire, il a été reconstitué après sa mort à partir d'un ensemble d'esquisses qu'il a laissées, parce que, bon, tout simplement, il n'a jamais eu le temps de le terminer. Alors, j'ai choisi ce morceau parce que on est ici au cœur du, finalement, du style mondain du 19e siècle, hein, qui est un style européen qui a été pratiqué par tous les grands compositeurs du 19e et qui est, par exemple, celui aussi des valses de Strauss, etc. Tout simplement pour montrer, et j'y reviendrai plus tard, mais qu'Elgar est un compositeur qui sait véritablement tout faire, pratiquer tous les styles, qui assimile toutes les esthétiques de son temps, parce que c'est un autodidacte, parce que tout simplement, il n'a jamais pu aller à l'école, parce que il faisait partie d'une minorité qui, au moment de sa jeunesse, n'avait pas encore accès, ou plutôt avait accès, mais ne savait pas encore profiter de ses droits, qui était celle des, j'allais dire, des catholiques anglais. Voilà. Donc cette émission, et peut-être aussi quelques autres qui suivront après, eh bien, est centrée sur un chef-d'œuvre d'abord qui s'appelle The Dream of Gerontius. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Bien d'abord parce que c'est en fait la grande découverte de mon année scolaire dernière, celle qui s'est passée avant les grandes vacances. Bon, j'ai été invité à participer à un colloque de musicologie à Caen, mais organisé par le département d'anglais de l'université de Caen, et qui me demandait au départ quelque chose sur Mendelssohn. Alors, je dirais, enfin, Mendelssohn, ça me passionne, mais en même temps, je suis pas véritablement germaniste. Et puis, je savais que dans un livre que j'avais écrit précédemment, qui s'appelle Culture et religion au XIXe siècle, qui est un gros volume de 800 pages, dans lequel j'avais écrit les 150 pages consacrées à la musique, j'avais fait une impasse. Simple, à la fois parce que j'avais pas eu le temps, parce que je m'étais peut-être pas rendu compte aussi de l'importance de l'œuvre, on évolue toujours, hein, qui est donc de cet oratorio, The Dream of Gerontius d'Elgar, qui est une œuvre de 1900, qui a été composée un petit peu avant et créée en 1900 au festival de Birmingham, avec, sur un texte du fameux cardinal Newman. Et donc, j'ai donc proposé une communication là-dessus parce que, en fait, c'était ce qui m'intéressait le plus. Bon, traiter de Newman me passionnait, traiter du catholicisme anglais m'intéressait, j'y connaissais strictement rien, je n'avais pas connu l'œuvre et je ne connaissais rien d'Elgar, en dehors des fameuses pomp and circumstance de tous les couronnements royaux que tout le monde connaît et dont je vais vous chanter le début. Tim, ta da di, ti, tim, pam, pa da di, pom, etc. Sauf que, évidemment, Elgar ne se réduit pas à cette musique officielle. C'est un des grands, grands compositeurs de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e, puisqu'il naît en 1857 et meurt en 1934. Voilà. Et donc, autour de cet oratorio extraordinaire, moi, je propose de rayonner à la fois sur la société anglaise du 19e siècle, à la fois sur la théologie du 19e siècle anglais, mais aussi sur la musique, sur aussi l'Europe, parce que Elgar est quelqu'un qui assimile toute la musique allemande de son temps, et aussi une partie de l'oratorio français, notamment Gounod, qui était extrêmement populaire donc en Angleterre dans la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà, j'ai un petit peu posé le tableau.
Très bien, et on va parler aussi très brièvement peut-être de John Henry Newman qui oui. est d'actualité, puisqu'il a été proclamé vénérable par la Congrégation pour les causes des saints en 91, et il va être béatifié le 2 mai 2010 dans la cathédrale gothique romaine de Birmingham. Donc le sujet est d'actualité et John Henry Newman est donc un anglican qui va se convertir au catholicisme. Voilà. Il va écrire beaucoup de textes, de poèmes, mmh. aussi dans sa phase romaine, catholique. Mmh. Et donc sur l'un des derniers poèmes, je crois, de lui, le songe.
Non, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors bien. Ce qui est passionnant, à mon avis, dans l'oratorio d'Elgar, c'est que il est le produit de la rencontre de deux types idéaux du catholicisme anglais du XIXe siècle. Vous avez une rencontre au sommet. Vous avez d'abord, avec Elgar, j'allais dire le petit bourgeois rescapé de la grande tribulation du XVIIe et du XVIIIe siècle, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui va avoir une ascension sociale absolument fulgurante et parfaitement régulière et méthodique, puisqu'il naît, il est le fils en fait d'un marchand de musique qui est en même temps un cordeur de piano, organiste de l'église catholique de Worcester, et il va finir anobli par, non pas la reine Victoria, mais par Édouard VII, donc de mémoire en 1923, je redirai peut-être la date exacte tout à l'heure, et on voit très bien comment il finit, si vous voulez, il reçoit des commandes officielles, on le voit émerger petit à petit vers la célébrité, absolument régulièrement. Et puis alors, de l'autre côté, vous avez l'Oxfordien converti, fils de banquier de la City, en gros, si vous voulez, un fils à papa, qui a un début de carrière absolument fulgurant, puisqu'il est l'homme du système, c'est donc John Henry Newman, et qui ensuite, en 1845, à la suite d'un itinéraire spirituel, intellectuel extrêmement riche, se convertit au catholicisme, et là, patatras, il n'a que des ennuis. Donc vous avez un marginal qui se socialise, c'est Elgar, et vous avez au contraire un homme de l'establishment qui se désocialise, parce qu'il fait dans sa vie un choix sociologique et culturel marginalisant et qui, après une très très longue traversée du désert qui va durer plus de 20 ans, finit par être cardinal de l'Église romaine avec cette chose extraordinaire, c'est que tous les Anglais en sont fiers. C'est-à-dire qu'il devient, le marginal le réprouvé, devient un des symboles du rayonnement culturel anglais dans lequel s'identifient non seulement les catholiques anglais, mais aussi les anglicans. Bref, il devient une sorte de mythe national, parce qu'il faut reconnaître aussi que, à la fin du XIXe siècle, en Angleterre, le catholicisme est à la mode. Je dirais que les catholiques font parler d'eux. Alors, bon, on a tous les convertis, alors on a Chesterton, on a par exemple George Bernard Shaw, on a aussi, alors quelqu'un qui flirte avec le catholicisme, qui finit par se convertir à la fin de sa vie, alors est-ce sincère, est-ce le dernier acte du dandysme, mais en même temps c'est significatif, c'est Oscar Wilde, par exemple, et puis alors il y a les grandes figures du catholicisme anglais, Newman sur le plan intellectuel, le cardinal Manning sur le plan institutionnel, bref, dans les années 1900, eh bien on a un renversement quasiment à 180 degrés de ce qu'était la situation extrêmement marginale des catholiques anglais au début du XIXe siècle, dans les années 1800, pratiquement l'année de naissance de Newman, puisqu'il naît donc en 1801. Voilà un petit peu, j'allais dire, le tableau qui achève d'être parachevé en quelque sorte. Alors maintenant, l'oratorio. Alors l'oratorio, en deux mots, j'y reviendrai peut-être dans d'autres émissions, mais c'est une commande qui lui est faite par le festival de Birmingham, qui est un très très grand festival choral qui commande chaque année des œuvres à des grands compositeurs européens. Gounod a composé des oratorios pour eux, etc. Bon. Et alors la création est en 1900, c'est un échec, un four, parce que l'œuvre est très compliquée, l'œuvre est complexe, hein, elle désarçonne un petit peu les musiciens et les chanteurs étaient mal choisis. Et ça se passe mal. Alors c'est là qu'on a un phénomène tout à fait intéressant, c'est que Elgar a toujours eu, dès sa jeunesse, des relations très fortes avec l'Allemagne. Et quelques mois après, l'œuvre est créée au Festival Choral de Düsseldorf, et elle est un très grand succès. Et à ce moment-là, par un phénomène de rebond, l'œuvre est recréée en Angleterre et à ce moment-là devient un succès fulgurant. Alors l'œuvre est une œuvre, j'allais dire, de langage romantique, c'est pas une œuvre post-romantique, c'est une œuvre du romantisme tardif des années 1900, à partir d'un poème du cardinal Newman, qui est un poème à la fois très serein et très triste. Newman l'écrit de mémoire en 1865, à un moment particulièrement triste de sa vie, parce qu'en fait il a abandonné tout le monde. Enfin, c'est quasiment le Christ au jardin des Oliviers, quoi. C'est absolument sinistre. Bon, alors, le thème principal de ce Dream of Gerontius, c'est la mort. Vous avez donc un vieillard qui meurt. Alors l'œuvre se divise en deux grandes, enfin en plusieurs parties, mais j'allais dire en deux grands panneaux. Premièrement, l'agonie de Gerontius, qui, comme son nom l'indique, est un géronte, c'est-à-dire un vieux monsieur qui revisite sa vie, etc. C'est un monologue intérieur qui est entrecoupé des interventions d'une part du prêtre qui l'accompagne, et d'autre part d'un chœur d'assistants, qui est aussi un chœur d'enfants dans l'œuvre. Bon, deuxième partie, ben c'est ce qui se passe de l'autre côté. Gerontius vient de mourir, et on a une scène extraordinaire où Newman fait parler l'âme, qui dit « Mais d'où viens-je? Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Mais quelle est cette lumière ?» etc. Dans une poésie extrêmement spirituelle. Et la deuxième partie de l'oratorio va décrire le trajet de l'âme qui vient tout juste de quitter le corps et qui va aller non pas au paradis, parce que c'est là qu'est, j'allais dire, le véritable challenge en quelque sorte de cette œuvre, c'est que l'âme ne va pas au paradis, mais est menée aux portes du purgatoire par l'ange gardien. Alors, évidemment, il se passe beaucoup de choses. L'âme est entourée. Alors, on voit arriver un cœur de démon qui va, représenter le combat du mal contre le bien. Et puis ensuite, très progressivement, l'œuvre se finit par cette arrivée au purgatoire. Alors là, il faut quand même être conscient que ça n'est pas très facile à représenter poétiquement. Et Newman, ici, fait preuve d'un sens poétique absolument extraordinaire. Mais c'est encore plus difficile pour un musicien, parce qu'il y a des conventions musicales dans l'oratorio. L'oratorio, c'est quand même du théâtre, même si ça n'est pas mis en scène depuis les premiers oratorios baroques du XVIIe jusqu'à l'oratorio du XIXe. Le modèle des formes musicales de l'oratorio, c'est l'opéra, c'est le théâtre. Sauf que le sujet est évidemment religieux, et comme c'est un oratorio, ça n'est pas mis en scène. Vous ne pouvez pas exagérer. Bon. Donc, vous avez des conventions théâtrales. Et vous avez, la première des conventions, c'est de faire en sorte que l'œuvre se termine quand même en apothéose. Or là, vous allez avoir une fin qui est une anti-apothéose, puisque l'opéra va se terminer par l'entrée au purgatoire, qui est quand même un lieu intermédiaire, un lieu où l'on se purifie avant d'accéder définitivement, donc, à la béatitude céleste en compagnie, donc, de Dieu. Voilà. Alors, je propose peut-être de laisser maintenant la place à la musique et d'écouter d'abord le prélude du Dream of Gerontius d'Elgar, en étant conscient de plusieurs choses. D'abord, on a ici, dans cette œuvre, dans ce prélude qu'on n'écoutera pas en entier, une évidente influence allemande. Elgar s'intéresse, est extrêmement intéressé par la musique de Wagner, notamment, et il est difficile de ne pas penser qu'en composant ce prélude, il ne se souvient pas, évidemment, du prélude de Parsifal. Alors, l'œuvre commence comment ? Elle commence par une extraordinaire monodie qui oscille entre le langage tonal et le langage modal, une mélodie donc en ré mineur, qui n'est pas accompagnée, ce qui rend évidemment la difficulté de la structurer sur le plan tonal. Et ensuite, Elgar installe progressivement une zone ré mineur. Et il finit ensuite après par il prolonge après ce premier épisode par un épisode extrêmement chromatique, où le chromatisme est assez proche du chromatisme romantique de Berlioz, mais aussi de Wagner, de Liszt, etc. Et après, vous avez un très très grand thème, parfaitement statique, qui s'enchaîne après avec un thème beaucoup plus vivant, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de l'écouter. Donc je propose d'écouter ce début de prélude, et après sur lequel je ferai quelques commentaires. Thank you.
Cher Bruno Moisan, nous avons écouté donc le prélude au songe de Géronte, le Dream of Gerontius de Edgar Elgar. Donc je vous laisse la parole pour continuer de nous parler de ce chef-d'œuvre écrit sur les paroles du cardinal Newman.
Alors ce qui est très intéressant dans ce prélude donc, de cet oratorio, The Dream of Gerontius, qui date donc de 1900, c'est la façon dont Elgar réussit à créer, à rendre perceptible sur le plan de la sensibilité, la complexité et la richesse des états qu'une âme et qu'une personnalité peut éprouver, donc devant cet événement qui est celui de la mort. C'est-à-dire on a ici un mélange de souffrance, un mélange de tourment, une inquiétude, en même temps une forme de sérénité. Elgar sait aussi un moment être grandiose pour montrer que c'est le moment le plus important de la vie, peut-être, après celui ou avant, je n'en sais rien, celui de la naissance, mais moi je ne me souviens pas de ma naissance, donc je pense que je ne me souviendrai peut-être pas non plus de ma mort, mais en tout cas je pense qu'effectivement la mort nous y pensons tous. Et tout cela parce que le fait qu'il ait été autodidacte, j'y reviendrai bientôt, lui a fait assimiler des styles très différents. Dans ce prélude, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve d'incontestables éléments wagnériens, au début, dans le chromatisme, etc., des éléments empruntés à Liszt, des éléments empruntés peut-être aussi à Gounod. On trouve aussi un moment, un petit peu avant le moment où le prélude a été interrompu, un accord fortissimo qui fait tout à fait penser au début d'une symphonie de Brahms. Enfin, on a ici ce compositeur anglais qui assimile à la fois la musique française, la musique allemande, tout ceci pour exprimer des états d'âme psychologiques et humains extrêmement complexes. Alors, en deux mots, un petit peu d'histoire que nous prolongerons dans la prochaine émission. Qui est Elgar ? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il est le fils donc d'un catholique anglais. Père accordeur, connu pour être anticlérical, passant son temps à dénigrer sa religion, qui est, je dirais, le propre très souvent des minorités. On s'intègre dans une collectivité qui ne vous est pas favorable, en négativant ce que l'on est soi-même pour essayer d'avoir un petit peu des relations plus faciles avec son entourage. Il est organiste. Son fils, Édouard, le remplacera très vite dès son adolescence. Bon, on a donc ici une famille typique de la minorité catholique anglaise, une forme de catholicisme honteux, que la loi d'émancipation récente, votée en 1829, votée par les libéraux, qui commence à profiter de ses droits. On a donc une longue tradition d'auto-exclusion. Alors le catholicisme anglais, en deux mots, c'est quoi ? C'est trois groupes. Premièrement, la grande noblesse. Exemple, le duc de Norfolk, dont la famille, sur 300 ans, est toujours restée catholique. Des couches populaires, qui la plupart du temps sont des paysans proches des grands domaines, des grands seigneurs catholiques, qui ont résisté à l'anglicanisme, ou alors qui sont des artisans, puisque un serment à l'anglicanisme empêche la classe moyenne, ou les gens issus de milieux populaires, donc catholiques par exemple, d'accéder à l'université. Et évidemment les Irlandais. On a donc ici un contexte de bricolage de survie. Elgar commence en faisant de la musique, en apprenant la musique dans le magasin de son père et en faisant de la musique tout simplement pour l'église catholique de Worcester. Et je vous propose d'écouter une de ses premières œuvres qu'il a composée à ce moment-là. C'est un Ave Verum que je commenterai peut-être après s'il reste un petit peu de temps ou sur lequel je reviendrai lors de la prochaine émission.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous venons d'écouter un Ave Verum du compositeur anglais Edward Elgar et nous parlions avec Bruno Moisin sur le renouveau catholique anglais, le Catholic Revival. Et si vous voulez écouter Bruno qui donne aussi des cours à l'école des arts à Chartres organisée par le Centre International Vitrail, renseignez-vous au 02 37 21 65 72. Nous allons poursuivre avec Bruno Moisin cette réflexion sur le renouveau du catholicisme anglais autour de l'oratorio d'Edward Elgar sur les paroles du cardinal Newman, qui est d'actualité puisqu'il va prochainement, en 2010, être béatifié. Bruno Moisin, peut-être vous voulez terminer l'émission avec une très courte phrase, peut-être.
Écoutez, je vais peut-être surtout présenter la prochaine, c'est-à-dire je vais donner des éléments beaucoup plus précis que je ne l'ai fait donc aujourd'hui sur la carrière d'Elgar, sur l'itinéraire spirituel et social du cardinal Newman, et ensuite, si j'ai le temps, donner quelques éléments sur l'oratorio en tant que tel, d'une manière un petit peu plus précise que je ne l'ai fait aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. À la prochaine émission, cher Bruno. Au revoir.